France Inter.
Bonjour. L'armée israélienne se retire en masse de la bande de Gaza alors que le conflit accuse déjà 6 mois. Nous serons à Jérusalem dans un instant. Vivre libre ou mourir, devise des résistants qu'Emmanuel Macron salue aujourd'hui à l'occasion du 80e anniversaire de la libération. Il est au plateau des Glières, au lieu de la résistance. Au Rwanda, on commémore le génocide Tutsi et la mémoire de 800 000 morts 30 ans après ces massacres. Inverser la courbe des déserts médicaux, taxe lapin, antibiotiques et vaccins en pharmacie, abandon du numerus clausus pour les étudiants en médecine, des mesures qui ne font pas l'unanimité chez les professionnels et les patients. Dans le même temps, un soignant a été agressé dans un service d'urgence aujourd'hui, grièvement blessé, il est en soins intensifs. Des pavés, pas de boue, mais déjà des chutes. L'enfer du Nord tient ses promesses. Nous serons sur le Paris-Roubaix dans ce journal. Météo, des températures encore chaudes cet après-midi, Céline Dacosta.
Oui, surtout sur l'est et le sud du pays où la moyenne ira encore de 21 à 28 degrés.
Et vos prévisions complètes, Céline, à la fin de ce journal. Notre rendez-vous avec les bonnes ondes de Sandrine Houdin, toujours autour des nains de jardin.
Je suis Bobby et je fais un appel à tous les Français pour nous envoyer tous leurs nains de jardin. Merci.
Et l'esprit sport d'aujourd'hui, c'est avec vous Nathalie Nianetta. Quel programme ?
Eh bien, on va courir et guérir, Isabelle. Aujourd'hui, on va recevoir la marathonienne Anaïs Kemener qui a surmonté son cancer grâce à la course à pied et le docteur Bouillet qui, depuis plus de 20 ans, prescrit du sport à ses malades du cancer. Voilà, c'est après votre journal. À tout à l'heure.
Merci, à tout de suite Nathalie.
France Inter.
L'armée israélienne retire la plupart de ses troupes du sud de la bande de Gaza. C'est une annonce surprise et plutôt laconique du porte-parole de l'armée en cette fin de matinée. Une annonce alors que le conflit entre dans son 7e mois et que la contestation grandit aussi dans la population israélienne qui manifeste quotidiennement. Bonjour Michel Paul, vous êtes à Jérusalem pour France Inter.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Que sait-on précisément de ce retrait après cette annonce très brève ?
Eh bien, on explique que c'est de fait la fin de l'offensive terrestre israélienne dans la bande de Gaza, du moins sous sa forme actuelle, avec ce retrait la nuit dernière de la 98e division du secteur de Khan Younes. Alors, désormais, dans l'enclave palestinienne est toujours déployée une seule et unique division et une autre brigade, principalement sur le tracé de l'axe qui coupe la bande de Gaza en deux. C'est la ligne qui empêche le retour des Gazaouis du sud vers le nord. Un porte-parole militaire annonce dans le même temps que les troupes israéliennes se redéploient autour de la bande de Gaza. Nouvelle stratégie, désormais, ce seront des incursions ponctuelles basées sur des renseignements précis des services de sécurité, le Shin Bet et le renseignement militaire. Et en cas de besoin, le porte-parole souligne que l'armée est prête à retourner en masse dans l'enclave palestinienne.
Ce retiré qui intervient donc, Michel, après 6 mois de conflit et alors que se tiennent des pourparlers au Caire, est-ce qu'il annonce un changement dans l'attitude d'Israël ?
Absolument pas. L'armée souligne qu'elle continue à se préparer à une opération dans la ville de Rafah. Autre affirmation de l'armée israélienne, ce redéploiement n'est aucunement lié à des pressions politiques ou aux ultimatums en provenance des États-Unis. Alors cela peut vouloir dire que les militaires israéliens se préparent à réagir sur d'autres fronts, la menace iranienne notamment qui semble se préciser, et aussi le front nord avec le Hezbollah. L'escalade se poursuit dans ce secteur, mais 6 mois après le 7 octobre, il semble clair que cette décision israélienne ouvre la voie à un accord de trêve avec le Hamas et un échange de prisonniers. Le retrait israélien est une des principales exigences de l'organisation islamiste. Autre point à suivre, qui a pris cette décision ? Pas de réponse à cette question à ce stade, mais il est clair, Isabelle, qu'elle ne sera pas du goût de l'extrême droite israélienne et que cela pourrait remettre en question l'avenir de la coalition menée par Benjamin Netanyahou.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem. Après 6 mois de conflit, le bilan s'élève donc à 33 000 morts selon le Hamas, alors que le 7 octobre, l'attaque avait provoqué la mort de 1 170 personnes selon un bilan établi par l'AFP. Et puis dans cette catastrophe humanitaire, on apprend que la Royal Navy va déployer un navire pour acheminer de l'aide via un corridor humanitaire établi depuis Chypre. Emmanuel Macron sur le plateau des Glières dans les Alpes aujourd'hui, théâtre de combat entre l'armée allemande et la milice française et les résistants. Hommage aux combattants donc et aussi aux enfants juifs déportés depuis la colonie d'Izieux. Le début d'un parcours de mémoire pour le président en commémoration des 80 ans de la libération de la France par les Alliés. Première cérémonie ce matin dans la nécropole de Thônes en Haute-Savoie où reposent 105 de ses résistants. Bonjour Mathilde Amerti.
Bonjour à tous.
Emmanuel Macron, Mathilde, qui vient de rendre hommage à l'esprit des Glières.
Oui, l'esprit d'aiguillère, l'esprit de fraternité de ce maquis qui était composé de Français et d'étrangers. Un maquis donc composite, honoré par le président.
Et ces montagnards qui maniaient naguère la faux et prirent le fusil. Et ces FTP communistes qui avaient décidé de défendre la patrie des droits de l'homme alors en danger. Et ces maquisards espagnols rejoignant dans les Alpes l'armée des neiges. Juifs comme catholiques, communistes, socialistes ou gaullistes, anarchistes et officiers, français et étrangers, unis dans le même combat face au nazisme, combat pour la liberté, combat universel qui est devenu celui de la France.
Des maquisards exécutés, torturés, déportés pour partie d'entre eux après l'intervention en mars 44 des Allemands aidés de la milice et de la garde mobile française. C'est aussi cela l'histoire des Glières, celle d'un pays qui ne s'aimait plus lui-même, a souligné Emmanuel Macron. Les maquisards ont sauvé l'honneur de la France, a-t-il encore appuyé. Alors 80 ans plus tard, il ne reste plus un rescapé. Le dernier en vie avait 104 ans. Cérémonie particulière donc aujourd'hui pour Gérard Métral, président de l'association des Glières.
Aujourd'hui, ça prend une nouvelle signification parce qu'il n'y a plus évidemment de rescapés. Et puis en même temps, on avait un message très fort de leur part de continuer cette mémoire, de la faire perdurer et surtout de l'expliquer, ses valeurs, tout la fraternité, le respect de l'un pour l'autre. Et ça fait partie des choses qu'on doit porter compte tenu des événements qu'il y a aux portes de l'Europe.
La cérémonie se poursuit. Emmanuel Macron fleurit les 105 tombes de Morette avec les enfants présents en nombre sous une météo clémente, hein, quasiment estivale, tout le contraire de ce qu'ont connu les résistants des Glières qui tenaient le maquis sous des températures négatives et 2 mètres de neige.
Merci Mathilde Merti avec Frédéric Kérou. Un brancardier est aujourd'hui en soins intensifs en Vendée, grièvement blessé. Il a été passé à tabac par une personne qui accompagnait un patient aux urgences de l'hôpital de Challans et qui a ensuite pris la fuite. Sylvain Battard est délégué syndical à l'hôpital de Challans.
Un monsieur est venu aux urgences pour un problème de brûlure, enfin pour une prise en charge médicale. Et donc des individus qui trouvaient que la prise en charge n'était pas assez rapide alors que ce monsieur était prioritaire, se sont agités, ont voulu tout casser à l'entrée des urgences. Et dans leur énervement, un collègue qui passait pour prendre sa pause sur le parking a été sauvagement agressé. Voilà, cette agression a entraîné quand même une hospitalisation en USIP, donc un service de soins intensifs du CHLVO. Ils ont voulu tout casser par la suite à coups de batte de baseball. Les équipes sont choquées, forcément.
Sylvain Battard avec Yves-René Tapon de France Bleu Loire-Océan. Un hôpital, c'est un sanctuaire. Aucune violence envers le personnel soignant ne peut être tolérée. Réaction du ministre délégué à la Santé, Frédéric Valletoux. Après l'agression, le service des urgences a dû être fermé pendant plusieurs heures. Alors que la situation est tendue, on l'a vu dans les hôpitaux souvent, comme dans tout le secteur de la santé, Gabriel Attal s'attaque aux déserts médicaux et à la difficulté de trouver des rendez-vous. D'abord avec cette petite sanction, sachant que chaque année, 25 à 30 millions de rendez-vous ne sont pas honorés, le gouvernement va instaurer une taxe lapin de 5 euros pour ceux qui ne se présentent pas. Gérard Raymond est président de France Assos Santé, il représente les patients et cette mesure ne le convainc pas.
Ah oui, bien entendu, plus que jamais, et notamment sur la mise en application avec le bon vouloir du médecin, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, le médecin regardera et puis dira « bon ben, il me manque quelques sous et puis donc je vais faire des déclarations de la paix ». En fait, tout cela ne nous paraît pas très sérieux aujourd'hui, alors que notre système de santé a besoin d'une refondation beaucoup plus profonde que l'ensemble des mesures annoncées, d'autant plus aussi qu'on annonce ces mesures-là alors que on est en train de finaliser des négociations conventionnelles qui risquent effectivement encore un peu plus de crisper. Donc, on aimerait bien qu'il y ait un peu plus de transparence dans la gouvernance de notre système de santé, un peu plus de clairvoyance et un peu plus aussi de participation et de discussion et d'échange avant d'annoncer des mesures comme ça qui ne sont pas des mesures de responsabilisation pour les patients, mais qui sont bien des mesures de culpabilisation.
Gérard Raymond, président de France Assos Santé, chez nos confrères de France Info. Parmi les autres mesures, les pharmaciens pourront prescrire certains antibiotiques et faire des vaccins. Et puis le nombre des médecins va aussi augmenter à terme. Le projet, avoir 16 000 étudiants en deuxième année de médecine en 2027, 2 fois plus qu'en 2017. Un éleveur de 76 ans a trouvé la mort en Ardèche à cause d'un écobuage mal maîtrisé. Il avait mis un feu à une parcelle pour la nettoyer, mais le feu s'est propagé. Il a été intoxiqué par les fumées. Son corps a été retrouvé par les pompiers appelés pour l'incendie. La communauté nationale nous a tous laissés tomber durant le génocide des Tutsis. C'est ce qu'affirme aujourd'hui le président rwandais Paul Kagame, alors que le pays commémore les 30 ans des massacres. Une flamme du souvenir a été allumée ce matin pour ne pas oublier les 100 jours d'horreur qui ont vu la mort de 800 000 personnes. Des chefs d'État, de nombreuses personnalités étaient présentes pour ce premier geste qui inaugure 100 jours dédiés à cette période sombre de l'histoire du Rwanda, un pays qui reste meurtri 30 ans après. Nathanaël Charbonnier est notre envoyé spécial à Kigali.
Des chefs d'État ou anciens chefs d'État comme l'Américain Bill Clinton ou le Français Nicolas Sarkozy et pas moins de 3000 personnes ont assisté dans l'une des grandes salles de la capitale aux cérémonies du souvenir. D'ailleurs, le mot est écrit en grosses lettres blanches sur fond noir, Kwibuka, qui veut dire souvenir, accompagné du chiffre 30. Au centre de la salle, un arbre en toile gigantesque, avec des branches qui retombent vers le sol et qui poussent à se sentir tout petit face à l'horreur dont seul l'homme est capable et qui s'est déroulée ici il y a maintenant 30 ans, durant 3 mois. D'ailleurs, la matinée a commencé un peu plus tôt devant le mémorial à Kigali dédié au génocide et où se trouvent des milliers de morts tutsis. C'est le président Paul Kagame en personne, entouré de personnalités, qui a allumé la flamme du souvenir qui brûlera durant les 100 jours à venir. Car ici au Rwanda, les hommages vont durer, notamment durant toute la semaine, avec un pays qui s'apprête à vivre au ralenti. La musique est interdite dans les lieux publics, remplacée par le souffle de l'émotion de tout un pays.
Nathanaël Charbonnier, envoyé spécial au Rwanda. Des milliers de Russes évacués de la région de l'Oural, la fonte des glaces et la rupture d'un barrage a entraîné des inondations catastrophiques, une situation qualifiée de critique par le ministre des Situations d'urgence. Les électeurs slovaques ont choisi un président pro-russe. L'ancien premier ministre Peter Pellegrini, proche du gouvernement populiste, a été élu hier avec plus de 53% des voix. Il s'impose face à son rival libéral et pro-européen Ivan Korchok. Ce clivage pro-russe, pro-ukrainien était au cœur de la campagne. Peter Pellegrini refuse toute aide militaire à Kiev et accuse son rival de vouloir entraîner la Slovaquie dans la guerre. Alexis Rosenweg est notre correspondant sur place.
Je ferai tout pour que la Slovaquie, que cela plaise ou non, reste toujours des côtés de la paix et pas des côtés de la guerre.
Avec plus de 53% des voix, finalement, Peter Pellegrini pouvait savourer sa victoire samedi soir, en n'oubliant pas de marteler qu'il était pour la paix dans l'Ukraine voisine, sans préciser comment exactement parvenir à cette paix. Le report des voix de l'extrême droite pro-russe et le vote des minorités ethniques, notamment de la minorité hongroise, lui ont permis de battre le candidat de l'opposition libérale, Ivan Korchok, qui a reconnu sa défaite, mais qui a aussi dénoncé les pratiques du camp victorieux.
Il est possible ici de remporter une campagne en faisant de l'autre candidat, en faisant de moi, le candidat de la guerre. Je veux vous dire très clairement que je ne l'oublierai pas.
La victoire de Peter Pellegrini est une bonne nouvelle pour son allié, le chef du gouvernement Robert Fico, qui aura désormais le champ libre pour mener les réformes controversées déjà amorcées, entre autres dans les domaines de la justice et des médias. La coalition qu'il dirige, formée avec l'extrême droite, peut envisager avec sérénité le scrutin européen dans 2 mois.
Alexis Rosenzweig à Bratislava pour France Inter. C'est une course britannique tout à fait mythique, le Boat Race, qui se court sur la Tamise et oppose deux équipes d'aviron, celles des fameuses universités Oxford et Cambridge. Une course extrêmement populaire qui rassemble jusqu'à 500 000 spectateurs sur les berges. Cette année, la rivière était tellement sale que plusieurs compétiteurs ont été malades. La Tamise reçoit en effet beaucoup d'eau usée qui ne sont pas traitées, Richard Place.
L'un des membres de l'équipage d'Oxford vomissait le matin même de la course après plusieurs jours d'entraînement sur cette eau qu'il a décrite comme remplie de poux, littéralement du caca. 3 autres rameurs sont également tombés malades. Les organisateurs avaient demandé aux sportifs de ne pas se jeter dans la rivière pour célébrer la victoire, comme c'est la coutume en fait. Juste avant, des tests ont révélé une présence à des niveaux élevés de la bactérie Escherichia coli. On la retrouve généralement dans les eaux souillées. D'après une association de défense de l'environnement, en particulier des rivières, cette pollution vient du rejet des eaux usées dans la Tamise. La faute à un système national ancien et même obsolète que le pays ne modernise pas suffisamment vite. L'évacuation des eaux usées et de pluie passe par les mêmes tuyaux. Quand il pleut beaucoup, les centres de traitement déversent le surplus dans la nature. Le responsable, Thameswater évoque des niveaux records de pluie ces derniers jours. Mais ça va bien au-delà. Les chiffres officiels le prouvent. L'Angleterre a rejeté sans traitement deux fois plus d'eau usée en 2023 qu'en 2022. Londres, Richard Place, France Inter.
Et une pollution des eaux qui préoccupe aussi à Paris, bien sûr, à l'aube des Jeux Olympiques dans la capitale. Le marathon de Paris, un double éthiopien et une surprise. Muluguetha Uma l'emporte chez les hommes en 2h, 5 minutes, 33 secondes. Chez les femmes, Mestaoud Fekir l'emporte en 2h, 20 minutes et 45 secondes. En Formule 1, victoire haut la main de Max Verstappen pour le Grand Prix du Japon. Le triple champion du monde en titre remporte son troisième succès de la saison à Suzuka. Ils vont plus vite que ce qui était prévu et le premier des 29 secteurs pavés n'est pas loin. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour à tous.
On parle bien sûr des coureurs du Paris-Roubaix qui sont pour l'instant sous le soleil. Mais cette année, plus que jamais, toutes les craintes se portent sur d'éventuelles chutes des coureurs, Fanny.
Oui, il y en a d'ailleurs déjà eu une sur le bitume, sur le goudron tout à l'heure, impliquant plusieurs outsiders de cette course. On pense à Nils Polis, Lawrence Rex de l'équipe Intermarché, également Jonathan contraint à l'abandon. C'était juste avant un passage de voie ferrée et tout le monde est tombé. La plupart ont pu repartir alors que vous parliez des secteurs pavés. On est en train de les aborder pour les 9 coureurs de tête échappés. Ils ont 1 minute et 20 secondes d'avance sur le peloton dans lequel figure toujours le grandissime favori, bien évidemment, le Néerlandais Mathieu Van Der Poel. Et là, tout le monde aux avant-postes de ce peloton est en train de se placer justement pour aborder de la manière la plus sûre possible ce premier secteur pavé de Trois-Ville à Anchy.
Fanny Lechevestrier en direct du Paris-Roubaix. Et c'est l'heure des bonnes ondes de Sandrine Houdin avec ce SOS improbable d'un petit village d'Eure-et-Loire. Envoyez-nous vos nains de jardin. Oui, vous avez bien entendu, le village d'Impau, 400 âmes, s'est lancé le pari de pulvériser 3 records du monde, dont celui de la plus grande collection, détenue par une Britannique avec plus de 2000 nains. C'est 5 fois plus que la population du petit bourg. Si vous envoyez votre nain de jardin, il sera baptisé dans la mare sacrée du village. Sandrine Houdin était invitée au dernier baptême.
Petite botte rouge, bonnet vert et gros nez blanc, il est calé sur une touffe d'herbe. Tout le monde autour attend le prénom.
C'est la marque sacrée qui se prononce. Il y a des grenouilles.
Ça fait croix, croix.
Chut. Écoutez, chut. Je crois que la mare nous dit quelque chose. Vous entendez?
Oui.
Vous êtes complètement barré.
Oui. Que je fasse pas pipi dans ma culotte.
Chut. La mare sacrée a parlé.
Alors,
la mare a dit Bobé.
Bonjour Bobé.
Tu réponds ou quoi Bobé? Je suis Bobé et je fais un appel à tous les Français pour nous envoyer tous leurs nains de jardin. Merci.
Cette mère de famille assiste à la scène.
Bah c'est carrément loufoque, mais c'est génial.
Mais là, vous sortez de chez vous, vous croisez un nain, ça...
Ouais, ça fait un peu bizarre, mais ça fait du bien. On se balade dans ce village, des fois on sait pas trop quoi faire, donc tomber sur des nains, c'est plutôt cool.
Allez,
Bobby,
on rentre à la maison.
Hop là!
Ses petits copains l'attendent chez le grand nain Laurent Gravier.
Ils viennent de partout. Il y en a qui sont venus de Paris par la poste et il y en a qui sont venus d'Islande. Ici, tu vois, on a une boîte de petits. On a... Olaf, Patin, Cognac, Boudinos, Olive, Kiki.
Génial.
Regarde, on en a qui vont jusqu'à 50 cm. Ça, c'est du nain de jardin.
Tout jaune.
Tout jaune.
Ah oui, puis il y a tous les sacs, là.
Oui, on a même un motard qui est venu de Paris pour nous déposer un nain de jardin à l'effigie d'un motard.
Oh, celui-là est magnifique.
Et celui-là, c'est le premier qu'on nous a donné, Réré.
Vous l'expliquez comment, ce succès?
C'est le nain de jardin. L'objet en soi, il est fun.
Et le défi, tellement drôle.
Les gens, ils ont besoin de rigoler. Les gens s'emmerdent, ça c'est sûr. Les nains de jardin, c'est un peu excitant.
Est-ce que vous avez un préféré?
Ah oui, j'aime bien le rouge qui a ses 2 petits sciots.
Des petits sciots?
Ah bah c'est des sciots. Les nains de jardin, ils parlent comme ça.
On a besoin aussi de ce genre de projet dans un petit village.
Bien sûr, c'est super marrant. C'est génial, quoi, parce que c'est fédéral.
Et vous avez quel âge?
13 ans.
Qu'est-ce qui vous éclate, vous?
On est plus soudés, je trouve. Avant, je connaissais pas tout ce monde. Et bah, du coup, bah, depuis, je parle de nains avec plein de gens.
Ça va, mon nain? Oui, ça va. Toi aussi, moi, ça va, ouais. C'est un gros délire.
Ah bah ça, oui. On a créé une chanson pour l'occasion.
Je veux l'entendre.
Oula. T'es prête?
Un. Oh, 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 oh.
Nous sommes les nains d'Impau. Pour ravir le record, chantons tous en accord.
Oh, 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 oh. Hey.
Elle est toute rouge.
Sandrine Houdin qui vous donne rendez-vous le 2 juin pour le plus gros rassemblement de personnes déguisées en nains de jardin à Impôt. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles. Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonjour Gilles Dacosta.
Bonjour Isabelle, bonjour à tous.
Encore des averses pour cet après-midi.
Oui, elles ondulent encore sur cet axe Pays de la Loire, Vendée, Poitou, Charente, en remontant vers les Ardennes, la Lorraine et en passant, comme ce matin, par la région Centre et l'Île-de-France. Un ciel toujours gris, des averses ponctuelles qui vont reprendre du poil de la bête cet après-midi. De part et d'autre de cette bande pluvieuse, ce sera quand même plus calme, plus sec surtout, et encore assez ensoleillé près de la Manche, même si on aura un petit peu plus de nuages que ce matin. Et toujours beaucoup de vent, soleil aussi pour la Corse. Pour les autres, ce sera un soleil bien voilé. Beaucoup de vent près de la Méditerranée et sur les Pyrénées. Et puis encore quelques poussières du Sahara qui volettent dans les airs.
Et les températures qui baissent sur un large quart nord-ouest.
Oui, plus que 15 degrés à Brest, 16 à Nantes, à Rouen, 17 à Tours, 18 à Paris. Mais ça reste chaud à l'est avec encore 28 degrés à Grenoble, 27 à Clermont-Ferrand, 26 à Mulhouse et Marseille, 25 pour Strasbourg.
Merci Céline Dacosta.